Bonjour à toutes et à tous. Le chantier des nouvelles vagues, vous l'aurez compris cette semaine, c'est donc la mémoire. Hier, nous évoquions les usages politiques, publics et dans l'enseignement des mémoires féministes et des mémoires du fait colonial. Demain, c'est la mémoire d'une femme qui est recomposée sur Twitter et en communauté. Jeudi, il s'agira de creuser la mémoire d'un lieu à venir. Et enfin, vendredi, on découvrira ou redécouvrira le mash-up qui découpe et qui colle dans la mémoire du cinéma. Voilà le chantier. Aujourd'hui, les nouvelles pratiques et nouvelles technologies permettent à des malades de retrouver la mémoire ou de ralentir sa perte.
Fais pas tomber ta tête parce qu'après, hein, t'en as plus. Hein.
Bon, il m'en reste pas grand-chose.
Michel est toujours là.
Oui, mais si elle est vide.
Elle me dit que je suis vide.
Non, moi, si je suis, si mon esprit est vide.
Ah oui, ton esprit,
c'est là qu'il y a le danger.
Mais non, tant que t'es là, ça va. Des nuits de... Non. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit qu'on dansait. Hein.
Ma mémoire est part, bah, des fois, la mémoire est part. De temps en temps, mais ça, ça dépend du jour. Non, moi, ma mémoire, ça va encore à peu près, mais il y a des... On voit que ça remonte déjà un certain temps. Un temps certain, même.
Poser la réciprocité, poser la vie intérieure de l'autre, même quand elle n'est pas perceptible, et la posant comme existante, essayer qu'est-ce que je peux percevoir à un moment donné de la présence, de la vie intérieure de l'autre, et puis il y a le fait de poser qu'elle existe. Je pense que le meilleur moyen de faire disparaître la personne, en tout cas dans la relation, c'est de poser qu'elle n'est pas là. Le seul moyen de la faire apparaître, et donc de tenter cette relation, de recommencer sans cesse, c'est de poser qu'elle est là. C'est de poser tout simplement que ce que je perçois ne peut pas être la réalité entière.
La voix de Jean-Claude Amezen au micro d'Alain Finkielkraut en janvier de cette année sur France Culture. Il est 14h passées de 3 minutes. Posons que les vies intérieures des autres dépassent ce que l'on croit en percevoir. Bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. En fin d'émission, chaque jour, on propose à quelqu'un de partager avec nous quelque chose d'important pour lui. Cette semaine, c'est la directrice du festival Les Suds à Arles qui se prête à l'exercice. Elle évoque sa passion pour la préhistoire et la manière dont sa curiosité est rassasiée une fois par semaine sur ce sujet et sur d'autres par la très belle émission de Jean-Claude Amezen, le même, sur les épaules de Darwin, diffusée sur France Inter. Science, rêverie et poésie, tout à l'heure, vers 14h50. C'est le deuxième moment de ce chantier des nouvelles vagues consacré à la mémoire. Aujourd'hui, la voilà qui manque. On décompte plus, alors c'est le chiffre que j'ai trouvé, 100 000 nouveaux cas de la maladie Alzheimer en France chaque année, dont les deux tiers toucheraient les plus de 80 ans. Le vieillissement croissant de la population met la recherche d'autant plus au travail sur le champ des troubles mnésiques que la mémoire est au premier rang des touchés par le vieillissement cognitif. La progression de l'imagerie cérébrale, mais aussi l'introduction de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques dans les expérimentations thérapeutiques élargissent ce champ de recherche de jour en jour. Sophie Blanchet et Valentina Lacorté, vous êtes deux incarnations de cette recherche au travail et vous êtes respectivement maître de conférences et chercheuse post-doctorant à l'Institut Psy Paris Descartes. Et puis vous dépendez du laboratoire Mémoire et Cognition dirigé par Pascal Collineau et de l'INSERM 894. Voilà, tout est dit. Bonjour à toutes les deux et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on entend peut-être un petit accent italien du côté droit, c'est ça?
Oui.
Et par ailleurs, il faut dire que vous êtes passé par le Québec. On a souvent tendance, en tout cas nous, quand on fait des recherches pour les nouvelles vagues, à se rendre compte que sur ces sujets-là, sur ces chantiers-là, le Québec est très en avance, en tout cas plus en avance que la France. Est-ce que c'est un complexe français ou est-ce que c'est vrai?
Eh bien, en fait, le berceau de la neuropsychologie est à Montréal. Et... les chercheurs d'ici, ou les enseignants, ou aussi les étudiants de notre domaine, envient aussi beaucoup l'expansion de la neuropsychologie en Amérique du Nord. Mais je pense que nous avons beaucoup de potentiel ici pour effectuer aussi des bonnes recherches et puis former des bons étudiants.
Ça veut dire que là-bas, il y a plus de moyens financiers, il y a plus de moyens pratiques, ou c'est plutôt une question de culture thérapeutique et médicale qui font que ces champs-là sont un peu plus en avance ?
Dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de moyens financiers. Les subventions sont assez facilement accessibles. On a facilement connaissance, aussi bien des petites subventions que des plus grosses subventions. Et aussi, il y a une politique qui fait qu'on met beaucoup l'accent sur le transfert des connaissances issues de la science vers la clinique. Donc, il y a un lien très étroit entre la science et la clinique, ce qui permet aussi rapidement d'apporter les nouveautés de la recherche
très
dans
rapidement.
Les soins cliniques.
Bon. Et ça, c'est par le biais de quoi ? De formation, de colloques ? Comment cette transmission rapide, presque autant pour temps, se fait ?
Eh bien, en fait, d'abord, on incite beaucoup les chercheurs à travailler avec les cliniciens, donc en neuropsychologie, en ergothérapie ou des domaines connexes. Et dans la majorité des colloques, dans beaucoup de colloques, les cliniciens sont invités, les étudiants, donc, qui sont des futurs cliniciens en formation. Et la clinique aussi se base beaucoup sur les dernières données probantes. Donc, on incite beaucoup les cliniciens à toujours se mettre à jour au niveau scientifique. Donc, à lire des articles scientifiques, à connaître les dernières données scientifiques, les derniers soins efficaces dans leur domaine.
Ça va vite, l'évolution de ces soins efficaces et la connaissance de ces soins efficaces ?
Eh bien, en fait, on estime qu'après une découverte et des données montrant l'efficacité d'un traitement, qu'il y a un décalage à peu près de 10 ans entre cette découverte et l'application. Mais dans les dernières années où j'étais au Québec, eh bien, on essayait d'accélérer ce processus en augmentant les relations entre les cliniciens et les scientifiques, mais aussi avec des partenariats politiques.
Ça veut dire que les nouvelles pratiques ou les nouvelles technologies ou les nouvelles découvertes dont on va faire état aujourd'hui pendant cette heure ne seront mises en application dans le champ clinique, dans différentes structures, que dans 10 ans ?
Eh bien, ça risque... Souvent, ça prend un peu de temps. 10 ans, c'est une approximation. Ça peut prendre un peu de temps. Mais il y a quand même des efforts qui vont dans le sens d'offrir des soins qui sont optimaux à la population clinique et à la population de manière générale pour favoriser un bien-être dans la société.
Est-ce que le léger accent italien qu'on entendait dans votre bonjour, Valentina Lacorte, nous laisse entrevoir que peut-être vous avez, vous, une vision de ce qui se passe en Italie de ce côté-là, de la recherche et de la clinique ?
Oui, alors en Italie, effectivement, la neuropsychologie, c'est quelque chose, et les neurosciences en général, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, depuis plusieurs années, dans différentes régions d'Italie. Là aussi, il y a de plus en plus cette tendance d'unir la science et la recherche dans les domaines en particulier de la neuropsychologie à la pratique clinique, ce qui est optimal pour une recherche appliquée à différentes pathologies telles que par exemple la maladie d'Alzheimer.
Et vous alors par exemple en France, oui. Vous qui êtes dans le champ de la recherche, vous êtes aussi en contact avec la clinique, avec le terrain aujourd'hui ?
Bien, moi je suis arrivée en septembre dernier. Donc,
donc vous prenez un peu votre temps.
Oui, c'est ça, je développe des collaborations pour le moment. Donc,
Et moi, en fait, j'ai également une activité de clinicienne. Je suis neuropsychologue à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. J'effectue dans ces cadres-là ce que l'on appelle des évaluations neuropsychologiques, donc des tests pour évaluer les fonctions cognitives des patients et en particulier la mémoire.
Oui, et on reviendra sur ces tests et sur ces pratiques. Alors hier, on a commencé par quelques définitions qui avaient rapport avec la mémoire. On va être aujourd'hui sur des champs un peu différents. Moi, j'ai découvert l'existence de la mémoire épisodique. Qui est-ce qui nous résume ce qu'est la mémoire épisodique ?
Donc, je peux le faire. La mémoire épisodique est donc un système de mémoire qui est impliqué dans la récupération des faits personnels dans un contexte spatio-temporel bien précis. Donc, c'est le système de mémoire qui nous permet de nous rappeler qu'est-ce que l'on a fait hier soir, la semaine dernière, ainsi que comment on a passé les dernières vacances d'été, par exemple. Et en fait, on fait une distinction entre ce qui est la mémoire épisodique, donc qui est la mémoire des événements personnellement vécus dans un contexte spatio-temporel spécifique, de la mémoire que l'on appelle mémoire sémantique, qui est donc une mémoire qui est liée aux connaissances générales que l'on a sur le monde. Par exemple, si on demande à quelqu'un quelle est la capitale de l'Espagne, donc tout le monde sait que c'est Madrid, mais on ne se souvient pas exactement de quand est-ce qu'on a appris cette connaissance. Donc c'est une connaissance que l'on a, mais que donc elle est stockée dans notre cerveau, mais de manière indépendante en fait du contexte spatio-temporel d'acquisition.
Et celle-ci, c'est la mémoire sémantique.
Sémantique.
Quelle est la plus fragile, notamment dans le cas du vieillissement cognitif ?
Ben en fait, dans le vieillissement, on observe un déclin lié à l'âge, au niveau de la mémoire épisodique. C'est la mémoire épisodique qui est un peu plus fragile. Il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être soit c'est un déclin, ça touche la mémoire épisodique en tant que telle, mais aussi les processus attentionnels qui sont importants dans la mise en mémoire de l'information. Et aussi ce qu'on appelle la mémoire de travail qui est importante dans la manipulation de l'information, plusieurs informations en même temps, et qui est aussi impliquée dans la mise en jeu de stratégies en mémoire qu'on peut appliquer pour améliorer ses performances mnésiques. Et donc cette mémoire est très sensible au vieillissement normal, pathologique, et aussi aux commotions cérébrales et aux accidents vasculaires cérébraux. Et donc, dans beaucoup de situations aussi, même chez les enfants, des fois, TDA, c'est plus l'attention, la difficulté d'attention.
J'ai noté dans mes notes du jour des troubles bizarres, oubli bizarre, ça s'appelle. Je ne trouvais pas ma direction. Et ça, c'est une période qui a dû durer 2 à 3 mois et qui m'a amené à consulter mon généraliste. Et c'est là où on s'est aperçu, en fait, que j'étais dans une santé absolument resplendissante. Sauf que mon organisme a voulu lutter certainement contre quelque chose, et pas n'importe quelle partie, mais les hippocampes et les amygdales du cerveau. Passage des alouettes, non, ça me dit rien du tout. Et vous voyez, d'une fois sur l'autre, je ne reconnais pas. C'est vraiment quelque chose de... Je suis dans une ville étrangère, là. Je fais du tourisme avec vous. Voyons. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, la rue Bataille, s'il vous plaît.
La rue Bataille, au deuxième feu. C'est celle qui coupe au deuxième feu.
Ah, voilà, elle est perpendiculaire.
Voilà.
Merci beaucoup, monsieur.
Allez, au revoir.
Au revoir. Et c'était pas le bon côté. Et c'est pas faute d'être venu ici depuis 2 ans et demi... J'ai bien dû y venir entre Madame Truche et le docteur Thomas Antérion. J'ai bien dû y venir 10 fois. Ça m'interroge beaucoup, ça. Le fait que je sois attaqué à l'un des points les plus forts de ma personne et de ma personnalité, s'il n'y a pas une raison. Parce que j'ai toujours été attaché à la mémoire et j'oubliais peu de choses.
On entend ici un extrait des Pieds sur Terre, ça s'appelait Voyage en amnésie, diffusé en juin 2015 sur France Culture. Cette personne qui commence par écrire les oublis bizarres et qui commence à déceler justement ce à quoi il était très attaché, la mémoire, et qui commence à flancher. Le début, le diagnostic, le moment où on se rend compte que l'oubli est bizarre et potentiellement pathologique, c'est une frontière qui est difficile à cerner, Valentina Lacorté.
Souvent, donc, c'est vrai que même dans les vieillissements cognitifs, non pathologiques, dans les vieillissements cognitifs, donc, souvent les sujets avec l'âge se plantent de leur mémoire, donc, mais souvent avec justement des outils, en particulier des outils neuropsychologiques, justement les tests dont je parlais tout à l'heure, on peut facilement arriver à détecter donc une plante amnésique qui serait lié un processus pathologique neurodégénératif tel que celui de la maladie d'Alzheimer ou d'autres aussi démence, ou en fait des pertes de mémoire qui seraient plutôt liées en fait à la perte neuronale physiologique qu'elle en a de toute façon dans les vieillissements cognitifs.
C'est là on entend hein, cette personne qui dit « je suis attaquée, je suis attaquée du côté de l'hippocampe et des amygdales du cerveau ». Alors moi j'ai plutôt croisé deux cortex préfrontaux dans les articles où il est question d'un cortex préfrontal à droite et d'un cortex préfrontal à gauche. Alors où on est attaqué lorsque la mémoire flanche ?
Eh bien en fait, là dans le cas du patient qui a une atteinte au niveau de l'hippocampe, des structures... d'amygdale. Donc c'est plus des régions qui sont impliquées dans le stockage de l'information. Et les régions préfrontales sont plus impliquées dans la mise en place de stratégies. Et quand on a des troubles sévères, bien plus souvent c'est lié à une atteinte des structures qui sont impliquées dans le stockage de l'information.
Qu'est-ce que vous appelez mise en place de stratégie ?
Bien par exemple, pour améliorer notre efficacité mnésique, on peut, quand on met en mémoire des mots ou des informations, on peut les catégoriser par sens. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie d'organisation. Ou on peut réaliser une petite histoire aussi pour de l'information qu'on souhaite retenir, l'information non liée entre elles. Donc ce sont des stratégies que spontanément, un sujet jeune va avoir tendance à mettre en place. Et ces stratégies, eh bien, souvent sollicitent surtout les régions préfrontales.
Et alors vous allez vous appuyer sur ces mécanismes qui sont en place et voir comment les ressolliciter dans des moments de perte mnésique et de plainte mnésique.
Eh bien, en fait, les programmes de rééducation cognitive peuvent proposer des stratégies. On va notamment chez des patients qui ont peu de plaintes mnésiques, enfin quelques difficultés mnésiques, mais pas trop sévères. On peut leur enseigner des stratégies mnésiques. Donc, ils vont se réapproprier des stratégies mnésiques que, sans atteinte, ils auraient tendance à utiliser spontanément. Mais aussi, quand il y a des difficultés mnésiques plus sévères, on préconise plus des aides mnésiques externes. Donc, ce sont des outils issus de la rééducation cognitive, mais on sait maintenant qu'il y a d'autres approches complémentaires qui peuvent aussi apporter un gain positif sur la mémoire et des processus connexes à la mémoire, comme l'attention et la mémoire de travail. Donc c'est le cas de la pratique d'activité physique qui peut avoir un rôle protecteur contre le vieillissement pathologique. Plus dans le domaine de la recherche aussi, il y a des études en neurostimulation. Et également en neurofeedback aussi, on sait que le neurofeedback peut aider, mais le neurofeedback basé sur des données probantes peut aussi aider à améliorer l'attention et la concentration.
Alors on va faire un petit point sur ces trois dossiers. L'activité physique qui aide à éventuellement ralentir le vieillissement cognitif. Vous avez notamment écrit un article sur la pratique de l'aérobic, sur la pratique de l'entraînement cardiovasculaire. Comment est-ce qu'on peut lier, justement, quand on a 75 ans, 80 ans, un exercice physique qui nous permettrait d'échapper ou de ralentir ce vieillissement. Pourquoi ?
Eh bien, en fait, le fait de réaliser des activités physiques, donc soit de nature aérobique 2 à 3 fois par semaine de manière assez intense, ou de l'activité modérée, mais plutôt des séances d'une heure à plusieurs moments aussi de la semaine, eh bien, la pratique d'activité physique va avoir un impact positif sur l'hippocampe. Et notamment, les activités physiques vont favoriser la régénérescence de certaines cellules au niveau des régions hippocampiques, donc comme on l'a vu, qui étaient impliquées dans la mémoire. Mais on a vu aussi que ça avait un impact bénéfique sur les régions préfrontales impliquées donc dans les stratégies. Et aussi au niveau des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui est impliquée donc dans la bonne humeur et aussi dans des processus de mémorisation. Donc en fait, au-delà d'un impact positif sur l'attention, la mémoire de travail, voire la mémoire épisodique, le fait de pratiquer des exercices physiques régulièrement a un impact au niveau neurophysiologique.
Et alors vous avez parlé rapidement des neurofeedbacks, de quoi s'agit-il ? Ça fait aussi partie des recherches que vous menez ?
Eh bien, le neurofeedback, en fait, j'ai plutôt développé cette expertise au Canada, où j'ai développé un institut en neurofeedback. Donc là-bas, on utilise du neurofeedback essentiellement basé sur des données scientifiques, comme je le disais tout à l'heure, l'importance de se baser sur des études scientifiques. Donc avec cette technique, la personne va apprendre à contrôler ses ondes cérébrales qu'elle va visionner sur un écran d'ordinateur. Et quand elle va être dans un bon état au niveau physiologique, son cerveau va être récompensé, soit par une vidéo, soit par de la bonne musique. Et donc ainsi, la personne va apprendre à contrôler ses ondes cérébrales, donc par exemple associées à la concentration, l'attention. Donc avec cette approche, on peut améliorer la concentration, l'attention. Donc ça a été surtout mis en évidence chez des enfants et aussi chez des patients qui ont subi une commotion cérébrale. Et aussi, ça a un impact pour diminuer l'anxiété. Et donc, c'est une technique pour ces populations, notamment les enfants avec un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et également chez les patients anxieux. Donc, c'est une technique qui a été approuvée par le FDA aux États-Unis, le Food and Drug Administration, donc ce qui appuie le fait que cette technique est efficace finalement et entraîne même des effets à long terme.
Alors, je ne suis pas sûre de comprendre ce que c'est que les ondes dont vous parlez.
Eh bien, en fait, les ondes cérébrales, au niveau du cerveau, donc on a différentes ondes cérébrales se dégagent, qui varient de 0 à plus de 60 Hz. Et selon chaque fréquence d'onde cérébrale, va être associée à un état mental, un état cognitif. Donc par exemple, quand on veut inhiber l'activité motrice, qu'on observe parfois de manière intense chez des enfants avec hyperactivité, eh bien, on va plutôt essayer de travailler les ondes cérébrales entre 11 et 13 Hz, qui sont qu'on appelle le sensory motor SMR. Et ces ondes sont impliquées dans le contrôle moteur. Et voilà, donc on obtient des très bons résultats. Donc, il faut à peu près entre 20 et 40 séances.
D'accord.
J'ai découpé mes journées de façon assez particulière, c'est-à-dire que j'avais besoin de 2-3 heures d'orthophonie par jour pour trouver. Ensuite, je travaillais, je sais pas, le tiers ou le quart de ce que je faisais normalement, c'est-à-dire 4-5 heures ou 3-4 heures. Et j'ai énormément dormi. J'ai dû dormir 14-15 heures au départ, ensuite 12 heures, ensuite je revais peu à peu vers ce qui était mon taf à l'époque, j'en suis encore loin, je pense. Je devais dormir 5-6 heures par nuit, quelque chose comme ça. J'en suis à 8 ou 9 aujourd'hui. Bon, j'avais pris l'habitude, en tant que patron de PSA, de savoir dormir 5 minutes quand j'avais 5 minutes pour moi. Donc c'est une habitude que j'ai utilisée, en fait. J'ai fait ça avec ténacité, endurance. Tous les jours, j'ai passé des heures à chercher également la chose la plus difficile pour moi, ça a été au bout d'un an ou deux ans, quelque chose comme ça, de retenir les noms propres. Et j'en ai passé des listes, en essayant de me souvenir de la personne que c'était, et ensuite, à partir de photographies avec mon orthophoniste qui me faisait passer les photos de gens que j'ai vus tous les jours pendant des années pour retrouver leur nom. Ça marchait une fois sur deux, une fois sur trois, ensuite peu à peu, quatre fois sur cinq, et puis aujourd'hui peut-être neuf fois sur dix, je sais pas.
On entend ici la voix de Christian Streff, ancien PDG de PSA. Il était au micro d'Aurélie Charron dans l'atelier intérieur en juin 2015 et qu'il parle de différents processus de rééducation, d'une part avec l'orthophonie, d'autre part avec sa femme dans un cadre plus intime qui lui faisait répéter des mots comme ça et pendant très très longtemps, de très longues séances jusqu'à retrouver notamment des correspondances entre des visages et des noms. Aujourd'hui, Valentina Lacorté, quelles sont les nouvelles technologies qui permettent à cette rééducation de prendre d'autres formes ?
Oui, alors aujourd'hui, donc pour un lien avec l'extrait qu'on vient d'écouter, effectivement, par exemple, on a toujours des tests utilisés, des exercices utilisés en sciences de rééducation orthophonique qui peuvent être basés, par exemple, effectivement, sur l'apprentissage d'associations non-visage. Donc ça existe encore, par exemple, pour les visages célèbres ou alors avec d'autres types d'images que l'on peut avoir des images de la vie courante, donc par exemple comme des fruits, des légumes, des objets. Et dans le cadre donc de la recherche actuellement, une nouvelle technologie, en particulier donc la réalité virtuelle, est utilisée. Donc je dis bien dans le cadre de la recherche. Donc nous ne sommes pas encore à l'application vraiment dans l'activité clinique courante, mais dans tous les cas, donc la réalité virtuelle peut être utilisée donc pour éduquer la mémoire. Alors qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle? La réalité virtuelle est une nouvelle technologie qui permet l'immersion du patient dans un environnement écologique, donc similaire à la vie quotidienne. Par exemple, on fait naviguer le patient dans une ville virtuelle. Il va se promener dans cette ville. Donc, l'immersion est totale, puisque bien sûr, il y aura aussi les bruits de la rue, etc. Donc, il se promène, il essaye donc de mémoriser un maximum de choses dans l'environnement virtuel. Et ensuite, donc, on peut utiliser la réalité virtuelle dans les cadres de l'évaluation de la mémoire, par exemple de la mémoire épisodique, ce que l'on disait tout à l'heure. Donc on va tester les capacités mnésiques du patient à se rappeler de ce qu'il a vu pendant sa promenade virtuelle. Ou alors on peut utiliser l'environnement virtuel pour rééduquer la mémoire, c'est-à-dire essayer de l'améliorer, puisque plusieurs études, donc encore une fois dans le cadre de la recherche, ont démontré l'efficacité de cet outil, surtout pour le transfert en fait des acquis que l'on a après dans les différentes situations de la vie quotidienne. Puisque un grand problème de la rééducation en neuropsychologie, c'est que ce que l'on apprend en séance, finalement, est difficilement transposable dans la situation de la vie de tous les jours. Or, avec la réalité virtuelle...
C'est-à-dire on retrouve la mémoire, oui, dans la séance, dans l'échange avec l'orthophoniste ou avec sa femme ou avec un proche. Mm. Mais quand on se retrouve seul...
En situation...
ça ne fonctionne plus.
En situation, voilà, dans une situation quotidienne que l'on peut avoir, une situation X, voilà, là, alors, ça devient difficile de remettre en place de manière automatique les stratégies que l'on a apprises en séance. Donc, on sait par plusieurs méta-analyses qui ont été publiées, que la réalité virtuelle aurait donc cette capacité d'avoir un meilleur transfert, capacité de transfert donc des acquis de la séance aux différentes situations de la vie quotidienne.
Oui, parce qu'en vous écoutant, quand vous dites on recrée une ville virtuelle dans laquelle le patient évolue avec les bruits, avec la vision, on se dit mais finalement pourquoi se promener? Pourquoi ne pas se promener dans la ville tout court, avec des vrais humains et des vrais bruits et des vraies villes, et ne pas profiter de cet échange-là pour transférer l'apprentissage?
Ça, c'est une bonne question. Par contre, il faut savoir que, voilà, tout d'abord, l'environnement virtuel nous permet d'effectuer tout cela dans un milieu sécurisé pour le patient, d'une part. Et ensuite, comme donc c'est des recherches que l'on fait donc d'abord dans un cadre scientifique avant d'aller à l'application en clinique, c'est que on peut contrôler tout un tas de variables, donc on peut contrôler les différentes variables dans l'environnement virtuel, ce qui n'est pas possible
dans un environnement réel.
Dans la vie réelle.
Est-ce qu'il y a aussi une dimension? Est-ce que dans ces recherches sont prises en compte des dimensions de manque de moyens en termes d'encadrement humain, par exemple le nombre d'institutions qui reçoivent des patients et qui encadrent des poissons qui perdent la mémoire, disent leur difficulté aussi à encadrer de plus en plus et de plus en plus proche, avec un taux d'encadrement fort, ces patients-là. Le fait d'avoir une salle qui reproduit de manière sécurisée un environnement virtuel, ça règle ça pourrait régler une partie de ces problèmes-là? Ou c'est pris en compte, cette question-là?
Ah bah, c'est sûr que les moyens de l'institution, alors les moyens d'un point de vue effectivement des outils, comme avoir une salle de réalité virtuelle dans les services de rééducation à l'hôpital, ça serait effectivement quelque chose de génial, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Pour d'un point de vue économique, ça serait très cher. Mais par exemple, la rééducation à la réalité virtuelle peut se faire également avec un simple ordinateur. Donc c'est ce que l'on fait actuellement dans le laboratoire mémoire et cognition. On a deux projets de rééducation de la mémoire, un projet chez des patients donc Alzheimer au stade débutant de la maladie, qui sera réalisé grâce à un financement obtenu par France Alzheimer, et un autre chez des patients traumatisés crâniens, également obtenu grâce à un financement de France traumatisme crânien. Et donc là, on va aller voir le patient dans les services avec un ordinateur, ça c'est pour les patients traumatisés crâniens. Et pour les patients Alzheimer, nous avons un objectif qui est très ambitieux, c'est-à-dire d'implémenter un programme en réalité virtuelle sur tablette tactile que le patient pourra donc réaliser à domicile. Et on prévoit également l'implication de l'aidant, parce que souvent l'aidant est également en demande aussi, et donc l'aidant sera impliqué dans ce programme. Donc il y a plusieurs solutions qui peuvent être envisagées, mais donc voilà, pour l'instant ça reste dans le cadre de la recherche. On espère exporter ça dans la pratique clinique courante, oui, parce si on a des résultats.
Voilà, puisque vous parlez de l'aidant, le caractère aussi relationnel qui est mis en jeu dans ces différents soins ne peut pas être complètement dégagé.
Tout à fait. Oui, et les dents surtout, c'est quelque chose, c'est vraiment primordial, puisque c'est grâce à les dents que l'on peut connaître les difficultés que le patient a dans la vie quotidienne. Donc, ce que l'on appelle le plan fonctionnel, donc les situations de la vie quotidienne, son éventuelle évolution également, les difficultés qu'il peut rencontrer avec le programme. Donc, c'est quelque chose de primordial pour nous, pour la mise en place du programme de l'aide médiation.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
Je ne peux pas imaginer un acte de reconnaissance qui ne passe pas par cette réciprocité. J'en ai fait souvent l'expérience avec mon épouse, elle est présente et puis tout à coup, elle a cet acte réflexe de se lisser les lèvres ou de gratter sa jupe, et elle disparaît. Au sens littéral du terme, il n'y a plus personne. Alors on va me dire, peut-être y a-t-il encore une personne, mais mon expérience est de dire il n'y a plus personne, c'est-à-dire il n'y a plus de personne. Et il faut restaurer la personne.
Thank you.
Juste avant ce morceau, on entendait la voix de Michel Malherbe, qui est auteur du livre Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance. Il posait la question de savoir, à propos de son épouse atteinte de la maladie, qui est là. Et d'une certaine manière, il faisait l'hypothèse qu'il n'y avait plus personne qui était là, qu'il y avait une forme de disparition du sujet, qu'il fallait restaurer le sujet. Est-ce qu'on peut parler, Sophie Blanchet, d'une disparition du sujet quand la mémoire fait défaut? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?
Oui, en fait, quand il y a des troubles amnésiques plus sévères, effectivement, il peut y avoir des fois des difficultés à reconnaître un proche.
Qu'il y a une implication de la mémoire dans la continuité, dans la constitution de l'identité, dans la possibilité de pouvoir être soi-même.
Oui, ça va. Peut-être, je ne sais pas, oui, Valentina,
oui,
tu es mieux.
Oui, en effet, c'est la mémoire épisodique, ce qu'on appelle épisodique, autobiographique, est très liée aux sentiments d'identité, en particulier à ce que l'on appelle les sentiments de continuité phénoménologique, c'est-à-dire avoir le sentiment d'être soi-même au cours du temps, donc c'est-à-dire dans le passé, dans le moment présent, mais aussi la capacité, donc dans cette notion de phénoménologie, continuité phénoménologique, il y a aussi la notion de pouvoir aussi se projeter dans un futur qui serait personnel. Et dans ce sens-là, donc, il y a toute une littérature qui se développe depuis une quinzaine d'années, dans laquelle, en fait, la notion de mémoire n'est plus considérée limitée à la dimension du passé, mais s'étend à considérer en fait la dimension du futur, donc la capacité du patient de pouvoir se projeter dans le futur personnel, en quelque sorte de ce que l'on appelle le voyage mental, donc de voyager dans son passé, mais également de pouvoir projeter des événements personnels dans les futurs.
C'est ce qu'on appelle la mémoire prospective.
Oui, la mémoire prospective fait en effet partie de cette mémoire du futur. Et voilà, pour donner une définition de la mémoire prospective, c'est le système de mémoire qui nous permet de réaliser une action dans le futur. Par exemple, il y a différents types de mémoire prospective. Alors, c'est sûr que quand on doit se rappeler de faire quelque chose, on a donc une composante de cette mémoire qui est appelée rétrospective, qui est plutôt liée donc au contenu de l'intention. Par exemple, le fait que je dois me rappeler d'acheter du pain ce soir, donc c'est une intention que j'encode en mémoire et que je me rappellerai de le faire, par exemple, quand en marchant près de chez moi, je verrai la boulangerie. Donc cet événement-là, donc il peut y avoir donc ce qu'on appelle des indices dans l'environnement qui vont nous rappeler donc les actions à réaliser au bon moment et au bon endroit. C'est un peu la notion du, par exemple, du post-it. Quand on écrit sur un post-it, donc qu'est-ce qu'on doit faire à un moment donné dans la journée. Donc ça relève de la mémoire prospective.
Comment se passent, Sophie Blanchet, les recherches au quotidien? Comment ça se passe de faire des recherches sur la mémoire?
Eh bien, dans le premier temps, on écrit une demande de subvention.
Non. C'est-à-dire que pourquoi pas raconter ça, mais plutôt racontez-vous les expérimentations que vous faites.
Les expérimentations que je fais, mais en fait, il y a certaines études, tout un ensemble de mes recherches porte sur l'effet des commotions cérébrales, sur les mécanismes neuronaux de la mémoire épisodique. Donc, soit les commotions cérébrales survenues chez des jeunes adultes ou dans la personne âgée, aussi chez la personne âgée. Et pour ces recherches, dans un premier temps, on fait des demandes de subventions et puis ensuite, des étudiants s'impliquent et peuvent réaliser leur master ou leur thèse sur le sujet. Il y a tout un processus de recrutement des participants. Après, on fait passer les protocoles aux patients et puis au contrôle. Et on analyse nos données avant de publier nos données et puis de participer donc à l'état des connaissances et éventuellement participer aussi, contribuer au développement de nouvelles interventions.
Et vous travaillez avec des patients sains dans vos recherches?
Il y a une petite anecdote, au Canada, on utilise le terme patient, on l'utilise plus ou moins, on parle plus de clients dans les milieux cliniques. Et puis, En fait, on peut très bien avoir, par exemple, dans le cas d'une commotion cérébrale, avoir quelques difficultés au niveau de la mémoire de travail et fonctionner très bien dans la vie de tous les jours. Mais ça peut engendrer un peu d'anxiété. Donc, il y a quelques stratégies qui peuvent être fournies ou quelques traitements. Mais finalement, dans le fait qu'on, étant donné qu'on fonctionne très bien, on peut considérer que on est fonctionnel. On ne peut pas parler de patient sain, mais on est une personne tout à fait fonctionnelle dans la vie de tous les jours, même si on peut présenter quelques difficultés cognitives. Là.
Alors du coup, vous rendez des services à des clients, vous améliorez leur mémoire comme vous répareriez leur voiture, par exemple.
Oui, en quelque sorte. Pas réparer totalement, mais par exemple, chez les enfants, on a des très bons résultats où on améliore leur capacité de concentration, d'attention avec, par exemple, le neurofeedback. Donc oui, on répare pas, mais on contribue à améliorer l'efficacité de la concentration, même chez des adultes aussi.
Vous bricolez le moteur pour que ça aille un petit peu plus vite.
Voilà, et puis les personnes qui participent aussi à nos recherches, comme je me souviens de notre recherche où on s'intéressait à l'effet des exercices aérobiques couplés ou non à une rééducation cognitive chez des personnes avec des troubles cognitifs suite à un accident vasculaire cérébral, eh bien, certaines de ces personnes qui ont participé à nos recherches étaient très satisfaites et trouvaient qu'ils avaient, c'était nettement amélioré et qu'elles n'auraient jamais pu faire s'améliorer autant si elles avaient été laissées par elles-mêmes dans la société et puis qu'elles seraient restées sédentaires. Donc, oui, on a des bons gains qui sont observés. Et puis, sachant que le cerveau est plastique, on peut toujours s'améliorer.
Et alors, puisque vous parlez de gains, c'est un marché juteux, ça, le marché de l'attention et de l'augmentation de la mémoire? C'est un futur marché juteux?
Je ne sais pas le terme juteux, qu'est-ce que vous entendez par juteux, mais si on peut améliorer le bien-être de la population, de différents âges, qu'elles soient cliniques ou saines, et ben je pense qu'il faut aller dans ce sens. À partir du moment que les interventions sont toujours basées sur des données scientifiques.
Non, ce que je voulais dire, c'était si ça se faisait à l'extérieur d'un cadre de soins, puisqu'il est question de clients, et c'est vrai que c'est assez peu commun, en tout cas en France, d'utiliser ce mot-là quand il est question de santé. Ça veut dire que ce sont des prestations qui vont être données dans des cadres privés, en dehors de cadres de soins, à l'hôpital par exemple.
Oui. En fait, en France aussi, on donne des prestations à l'extérieur des milieux hospitaliers. Mais en fait, on utilise le terme client là-bas, même dans les milieux hospitaliers. C'est parce qu'en fait, on veut pas stigmatiser avec la notion de patient. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plus facilement maintenant le terme client. Mais ça n'a pas de rapport avec un aspect financier.
Commercial.
C'est plus un aspect, on offre un service à quelqu'un qui en a besoin.
Le commerce, quoi.
Alors, tu m'emmènes où, toi, la grande, là?
Dans mon bureau. Bon. Tu vas reconnaître.
Parce que je ne connaissais pas ton bureau.
Tu reconnais?
Oui, bien sûr, mais j'attendais, je ne savais pas si on rentrait. Alors, je t'écoute sérieusement. Je ne sais pas ce que tu vas me dire.
Sérieusement?
Bah oui, parce que...
Bah, tu sais bien, j'aime bien t'embêter des fois l'après-midi un petit peu...
Oui, t'as raison, parce que je suis une folle.
Comment ça s'appelle ici? Où est-ce qu'on est là?
On est dans un endroit où on peut parler avec les personnes pour différentes choses, pour augmenter quelque chose, faire quelque chose d'intéressant, quoi, dans ce que vous voulez faire, quoi.
D'accord.
C'est comme ça que je ressens les choses, quoi.
Et dans quelle ville on est? Est-ce que tu sais? C'est pas facile, le nom de la ville.
Non, parce que moi, en fait, je suis entre Caen et Rouen.
D'accord.
On est tout près l'un des autres. Puis en fait, après, il y a eu comme une espèce de regroupement. Donc, maintenant, on est tous ensemble, finalement. Enfin, il y a quelque chose qui s'est fait.
Et là, en ce moment, là, toutes les deux, on est dans quelle ville? On est entre Caen et Rouen.
Oui, oui, ça c'est clair. Rouen... Rouen, ça c'est sûr, je suis née à la Mauve. J'étais un tout petit bébé. Et en fait, ça c'est une réalité.
Oui.
Je donne exactement ce que j'ai, hein. Je dis rien d'autre.
All the leaves are brown, and the sky is gray.
De ce soleil-là, 14h47 sur France Culture, de Mamas and de Papas. C'est vous qui l'avez choisi, Valentina Lacorte, pourquoi ?
Oui, justement pour un besoin de soleil. Et puis, je suis tombée dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est une chanson que j'écoutais pas mal et ça me rappelle un peu. J'ai passé une période en Californie, toujours pour la recherche, à San Francisco.
Et qu'est-ce que vous y faisiez comme recherche à San Francisco ?
J'ai travaillé dans le laboratoire d'Adam Gazley. Tout particulièrement, je travaillais sur une recherche concernant les corrélats neuronaux, les régions du cerveau qui sont impliquées toujours dans la mémoire épisodique. Chez des sujets sains. C'était pas chez des patients.
Qu'est-ce qui vous motive toutes les deux ? Qu'est-ce qui vous anime dans le champ de la recherche appliquée à la perte de la mémoire ou justement à la restauration de celle-ci ? Quelles sont les pistes qui vous enthousiasment le plus, Sophie Blanchet ?
Moi, ce que j'aime le plus, c'est d'essayer de développer des nouveaux outils qui permettent d'améliorer l'efficience amnésique. Et c'est ça qui va le plus me challenger.
Alors, vous vous concentrez sur quoi, par exemple, comme outil en ce moment ? Vous pouvez pas le dire ?
C'est un cours pour l'instant. C'est par exemple le neurofeedback, des projets qu'on souhaite développer dans le laboratoire. Et puis, par exemple aussi, là récemment, j'ai traduit un programme d'entraînement de l'attention pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de l'attention, de la concentration. Qui est un programme qui est considéré comme un Golden Standard, la PT2, un Golden Standard en Amérique du Nord. Et donc, il sera bientôt offert aussi ici en France, pour la clinique. Et donc, on souhaite utiliser aussi ce programme dans le cadre de projets de recherche ici. Donc, évidemment, les projets de recherche, ça met beaucoup de temps avant d'avoir d'aboutir, mais moi, ce qui me challenge, c'est de faire des découvertes à chaque fois.
Et vous, quel domaine précisément, Valentina ?
Je suis très intéressée par l'application de la recherche à différents types de populations, de patients. Donc l'application des découvertes que l'on fait en recherche, à la clinique. Et ce qui me fascine de la mémoire, c'est que je trouve extraordinaire le dynamisme de cette fonction cognitive, puisque même quand on perd la mémoire, c'est pas juste qu'on arrête en fait de récupérer des souvenirs, d'encoder, récupérer des souvenirs. Parfois, même dans les pertes de mémoire, on peut avoir par exemple ce que l'on appelle la production de ce que l'on appelle des faux souvenirs. C'est aussi un symptôme auquel je m'intéresse beaucoup. Donc c'est quand le patient il est amnésique, mais en fait il se met à produire des souvenirs qui n'ont pas des liens avec la réalité. Donc ce qui rend compte, en fait, ces symptômes-là du dynamisme de la mémoire humaine.
Et de la plasticité hein, que vous décrivez tout à l'heure, Sophie Blanchet, ça s'appelle les confabulations, c'est ça ce que vous décrivez?
Oui, alors oui, en fait, il y a différents types de faux souvenirs. Moi, mais je m'intéresse tout particulièrement pendant ma thèse, je me suis intéressée aux confabulations. Et en fait, la confabulation consiste dans la production verbale de la part du patient de souvenirs qui ne sont pas congruents, on va dire, avec la situation réelle du patient. Pour donner un exemple, par exemple, un patient hospitalisé, si on lui pose la question qu'est-ce que vous avez fait la veille, ou même qu'est-ce que vous allez faire le lendemain, si on intègre cette notion du futur, le patient souvent nous répondra, par exemple, sur la base de sa vie, donc de sa vie autobiographique, de la mémoire autobiographique. Par exemple, il vous répondra, hier j'étais travaillé à telle heure et demain j'irai travailler, alors qu'il est hospitalisé depuis plusieurs mois. Et donc, en fait, il y a des lésions cérébrales qui causent cette production de faux souvenirs.
Et qui bouchent les trous, en fait, d'une mémoire qui est défaillante. Alors, ça veut dire qu'on peut parler d'une forme de réinvention, d'une autre forme de mémoire, quand on produit du souvenir ?
C'est un effet, ce que vous dites de bouche-trou, c'est un effet, une des interprétations que l'on peut donner des confabulations. Il y a plusieurs interprétations, plusieurs théories qui ont été proposées donc, pour expliquer cette production donc, de la mémoire. Nous, dans le cadre de mes travaux, on dit que la confabulation, pour nous, ce n'est pas vraiment uniquement un déficit de la mémoire, mais c'est quelque chose d'un peu plus compliqué qu'on lit plutôt à la conscience. Donc là, on va dans un autre domaine qui est plutôt le domaine du lien qui peut exister entre mémoire et conscience. Donc.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richaud.
14h52 sur France Culture, chaque jour à cette heure-ci, nous sondons les mémoires. On ne sait pas si on trouve de vrais ou de faux souvenirs, mais en tout cas on écoute. Cette semaine, c'est Marie-Josée Justamont qui se prête à l'exercice. Elle est à la tête du festival Les Suds à Arles, dont la belle programmation commence le 11 juillet. Et aujourd'hui, elle évoque sa passion pour la préhistoire et une bien belle émission de radio.
C'était en promenade au mois d'août, vacances, moi c'est pas le moment où je vais à l'étranger parce que j'y vais le reste de l'année. Donc c'est vrai que le mois d'août j'aime bien promener en France et voir de beaux paysages et faire des musées. Et c'est celui de Tautavel, consacré à l'homme de Tautavel. Et là, alors, vraiment, ça a été un choc. Oui, ça m'intéressait de loin, la préhistoire, mais pourquoi ce moment-là et pourquoi cette passion qui continue vraiment à m'habiter, je ne sais pas vraiment, mais ça a été très puissant. Et à partir de là, comme toujours, quand je suis passionnée, ben j'explore, bien sûr, plus à fond possible. Je lis beaucoup dessus et je visite beaucoup, là aussi. Alors, Lascaux, évidemment, Lascaux, alors là, c'est d'une puissance maximum, puisque c'est la préhistoire et on retrouve l'art, évidemment. Donc, c'est extrêmement puissant, mais toutes les grottes aussi, de Dordogne, du Périgord...
Et alors, cette passion vous a mené à la fois lire, visiter, mais aussi tendre l'oreille. Il y a un animateur radio sur France Inter qui vous permet de temps en temps de reprendre contact avec la préhistoire.
Tout à fait. Jean-Claude Amezen, sur les épaules de Darwin. Ça, j'avoue que c'est une émission qui provoque toujours une profonde émotion chez moi et en même temps qui arrive à justement complètement me libérer l'esprit et m'emmener ailleurs et m'amener sur des grandes routes, bien évidemment, sur les épaules de Darwin en tout cas. Et c'est vrai qu'il ne parle pas que de préhistoire. Là, il vient de faire une série sur Marie Curie qui était sublime aussi. Il parle de beaucoup de choses, il parle des peuples premiers aussi, il en parle d'une très belle manière. Mais ce que je préfère, c'est quand il parle de préhistoire, justement, du paléolithique moyen, du paléolithique supérieur, de nos grands ancêtres et de la manière dont il en parle avec l'intelligence qu'il a. La poésie qu'il sait y mettre et cette voix magnifique, cette voix de radio, c'est une émotion... très puissante. C'est la manière transversale de oui, c'est cette manière, c'est exactement ça, c'est ce côté transversal, c'est être en même temps dans la poésie, dans l'imaginaire le plus total, en s'appuyant sur des données scientifiques, hein. Dieu sait qu'il est très bien placé pour ça, et on sait que c'est complètement fiable. Et ça, je trouve ça extraordinaire, et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et que j'essaie d'une autre manière, bien sûr, de mettre en pratique aussi. C'est ce qui est intéressant. Voilà.
5 o'clock this morning I was coming down. Born with a nervous breakdown, I hit the ground. Been beaten down by boredom, I got afternoons on my hands. That's nothing new for me. God, if silence was gold, I'd be a rich man. What's good for me is good for all. And there's no one out there with an extra credit card or spare change giving me one phone call. I'm no Muhammad. I'm Mother Mary.
Cuckoo's Nest, chanté par Lee Harvey Osmond pour terminer l'émission. Merci beaucoup à toutes les deux, Valentina Lacorte et Sophie Blanchier, d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci. Merci. Merci.
Et les nouvelles vagues, c'est terminé pour cet après-midi, mais ça peut se réécouter sur franceculture.fr. On peut aussi s'abonner au podcast et se parler via franceculture.fr. Chose possible avec Twitter et Facebook, ça nous donne plein de raisons de s'écrire. Merci à Romain Debec-de-Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et Marie Aubert qui imaginent cette semaine l'émission avec moi et à Somanina qui la réalise aux manettes aujourd'hui. C'était Jean-Frédéric, c'est au droit d'auteur Ben Kaczmarek. Dans un instant, on retrouve la littérature avec Mathieu Garrigou-Lagrange.